Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours.
Un couvre-feu avancé à 18h dans tout le pays, c'est donc l'option retenue par le gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du virus.
En revanche, pas de confinement pour l'instant, mais une vigilance particulière aux frontières.
Et des précautions supplémentaires dans les écoles. On vous dit tout dès le début de ce journal sur cette nouvelle salve de mesures annoncée ce soir par le Premier ministre.
La France, mais aussi le reste du monde, bataille contre ce virus. Avec Didier François, on s'intéressera à l'Afrique, ce continent relativement épargné pour l'instant par le Covid, mais où tout pourrait basculer très vite.
On vous parlera aussi de cette affaire de trafic d'armes. 10 personnes interpellées en France, dont 2 militaires en activité. Le réseau est soupçonné d'avoir fourni des armes à des trafiquants de drogue et à des sympathisants d'ultra-droite. Et puis le coup d'envoi du mondial de handball ce soir, Norvège-France et des Bleus qui entament la compétition avec moins de certitude après une année décevante.
Le froid est de retour, Anissa.
Oui, demain, couvrez-vous. Effectivement, nous aurons des valeurs négatives le matin dans l'Est avec la neige qui reste encore très présente demain et 11 départements toujours en vigilance orange.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on peut donc voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pas de confinement donc, mais un couvre-feu avancé pour tout le monde.
Oui, c'est la piste qui a été retenue, comme Europe 1 vous l'indiquait, dès mardi.
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Nous appliquerons donc cette mesure dans tout le pays, car la situation a évolué ces derniers jours. Alors que la reprise épidémique était concentrée fin décembre sur certains départements, la circulation virale concerne désormais tout le territoire. À l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité.
Se préparer à toute éventualité, dit le Premier ministre, car la situation en effet est loin d'être stabilisée.
Victor Delande, on commence donc par ce couvre-feu, 18h, sur le même principe que celui que nous connaissons déjà. À 20h.
Oui, un couvre-feu national à partir de 18h qui commencera dès samedi. Le Premier ministre Jean Castex s'est appuyé sur une donnée très intéressante pour justifier cette mesure. Dans les départements qui ont mis en place un couvre-feu, les contaminations augmentent 2 à 3 fois moins rapidement que dans les autres départements. Une mesure de freinage censée réduire les contacts sociaux, donc entre 18h et 20h. Le Premier ministre a invité les commerces à ouvrir plus fréquemment entre midi et 2 pour éviter des rassemblements trop importants à la fin de la journée. Dès que possible, il incite également les commerces à ouvrir le dimanche pour compenser leur baisse d'activité. Mais attention, ce nouveau couvre-feu n'interdit pas un reconfinement, comme vous l'avez entendu juste avant. Si les courbes de contamination devenaient plus inquiétantes dans les prochaines semaines, le gouvernement n'hésitera pas à acter un troisième confinement sur l'ensemble du territoire.
Alors en revanche, Victor, les écoles restent ouvertes, contrairement à beaucoup de nos voisins. Choix assumé, mais avec un protocole sanitaire renforcé.
Oui, Jean Castex a pris l'exemple de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Italie, qui ont décidé de retarder la rentrée des classes au retour des fêtes ou de fermer tout simplement les écoles. Le gouvernement ne veut pas le faire pour le moment. En revanche, le protocole sanitaire sera renforcé, notamment dans les cantines. On le sait, les repas sont vraiment le moment le plus à risque pour les contaminations. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donc expliqué qu'il n'y aura pas de brassage possible entre les élèves de différentes classes. Les enfants déjeuneront donc avec leurs camarades de la même classe. Il y aura aussi davantage de services pour laisser le moins d'élèves possible dans les réfectoires. Des repas emportés pourraient être actés dans certaines écoles, mais ce sera décidé au cas par cas. Toutes les activités sportives extrascolaires en intérieur sont désormais interdites. Pour les lycéens, l'enseignement hybride, c'est-à-dire à moitié en présentiel et à moitié en distanciel, reste la norme. Ça deviendra également une possibilité pour les élèves de 4e et de 3e. Enfin, 300 000 tests seront réalisés chaque semaine dans les établissements scolaires pour surveiller au plus près les contaminations.
Merci Victor Delande.
Et sur ce protocole sanitaire renforcé dans les écoles, écoutez la réaction à l'instant de Bruno Bobkiewicz. Il est représentant du syndicat des proviseurs SNPDEN et lui-même proviseur à Vincennes, en région parisienne.
Sur la cantine scolaire, objectivement, je ne vois pas quelle est la marge de manœuvre supplémentaire. Tout ce qui avait déjà pu être mis en œuvre depuis le deuxième confinement l'a été. Hein, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin. J'ai entendu la possibilité qui a été donnée concernant les repas à emporter. On a quand même des normes d'hygiène, hein, qui s'imposent aussi dans les établissements scolaires. Hein, donc on ne peut pas déjeuner n'importe où, et d'ailleurs sous la surveillance de qui ? Hein, donc c'est ça aussi, ça pose question sur la faisabilité de la demande. Aucune évocation préalable concernant l'EPS, par exemple. Hein, donc ça veut dire que là, il faut qu'on réfléchisse à comment on réorganise le temps scolaire. Est-ce qu'on fait des modifications d'emploi du temps ? Est-ce que les professeurs d'EPS doivent prendre les élèves en classe et proposer d'autres activités à la place ?
La réaction d'un proviseur joint à l'instant par Virginie Riva. Et puis le gouvernement a aussi donné des précisions sur la reprise progressive des étudiants. Vous savez que l'absence de cours en présentiel depuis le mois d'octobre suscite un mal-être croissant chez les jeunes concernés. Eh bien, le gouvernement permet un retour extrêmement progressif à l'université en première année, par demi-groupe et dans les travaux dirigés. Le ministre de la Santé, lui, est revenu sur la vaccination pour les moins de 75 ans hors EHPAD, qui sera possible, vous le savez, dès lundi. Avec cette annonce, pourront également être vaccinées quelque 800 000 personnes atteintes de maladies graves qui les rendent vulnérables. Ces personnes pourront s'inscrire dès demain sur le site internet du gouvernement, santé.fr, qui a été pris d'assaut aujourd'hui. Son ouverture a été reportée. Et puis ça y est, Julien, on a enfin le numéro de téléphone, le 0800 009 110. On vous le met bien sûr sur notre site internet europe1.fr.
Jean Castex, qui a également, Isabelle, indiqué que tous les dispositifs de soutien seront maintenus aussi longtemps que cela sera nécessaire.
Et on y reviendra donc sur toutes ces annonces dans votre débat du Club des idées d'Europe 1.
Oui, absolument. Avec nos invités, on s'intéressera aussi à la vie quotidienne, votre vie quotidienne. Comment s'organiser pour être rentré à la maison à 18h. En tout cas, on vient de l'entendre, les autorités sanitaires restent très vigilantes et scrutent en particulier de très près l'évolution des fameux variants, le britannique, mais également le sud-africain.
Et on en parle avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors si l'on regarde les chiffres, hein, l'Afrique semble être un continent relativement épargné par la pandémie, sauf qu'en réalité, eh bien, c'est une bombe à retardement.
Eh oui, 3 millions de cas officiellement recensés pour 74 000 décès, c'est 5 fois moins que l'Amérique latine. Moins de 4% des statistiques mondiales. Donc oui, effectivement, l'Afrique semble relativement épargnée. C'est parfois expliqué par l'extrême jeunesse de sa population, par un climat a priori défavorable au développement du virus. On peut également penser que finalement, c'est les statistiques qui ne sont pas vraiment fiables. En fait, on n'en sait rien. Le vrai problème, c'est bien cette mutation de la Covid-19 apparue en Afrique du Sud, beaucoup plus contagieuse que la souche originale, également beaucoup plus dangereuse. Et c'est la virulence de ce fameux variant 501 qui fait craindre à nos scientifiques une troisième vague potentiellement difficile à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Parce que les derniers pointages réalisés par l'OMS ont déjà détecté ce variant dans 20 pays, dont les Comores. Des Comores, ben ça va passer à Mayotte, de Mayotte à La Réunion, de La Réunion à la métropole. Toutes les mesures que prendra le ministère des Outre-mer pour freiner cette propagation ne pourront pas à terme la bloquer. C'est malheureusement pratiquement mécanique. À l'âge de l'avion, bah, le monde est petit. On ne peut donc pas laisser et rester sans réagir, laisser subsister en Afrique un réservoir de contamination qui menacerait à terme les efforts entrepris en Europe pour maîtriser l'épidémie.
Donc, si je vous suis, il va falloir aider les Africains pour qu'ils puissent accéder rapidement à ce fameux vaccin.
Et voilà, c'est indispensable parce que le seul moyen de contrôler la diffusion de ce virus, eh ben, c'est le vaccin. Les Africains, d'ailleurs, sont attaqués au problème à bras-le-corps malgré des ressources financières limitées. L'Union africaine a négocié avec la Banque mondiale une ligne de crédit pour acheter 270 millions de doses. Alors, ça permettra déjà de protéger 20% de la population sur le continent d'ici à la fin de l'année. C'est un premier pas important, mais d'un point de vue épidémiologique, il faut atteindre un taux de 60% pour envisager un recul significatif de la maladie. Donc il va falloir aider l'Afrique à mener cette campagne massive de vaccination. Et ça sera d'ailleurs un excellent investissement parce qu'en fait, il s'agit d'une mesure de protection sanitaire de l'ensemble de la population mondiale.
Message entendu. Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
Puisque vous parliez à l'instant de la circulation du virus d'un pays à l'autre, Jean Castex a également annoncé le renforcement des contrôles aux frontières pour les personnes venant d'un pays hors de l'Union européenne. Il faudra présenter un test PCR négatif et s'engager à rester à l'isolement 7 jours.
Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
La suite du journal à 19h11 avec Isabelle Millet. Il s'agit d'une des plus importantes saisies d'armes jamais réalisées en France. Un réseau vient donc d'être démantelé par la brigade de répression du banditisme. Sa particularité, plusieurs de ses membres étaient des militaires.
Oui, et notamment deux militaires encore en activité, Chloé Triomphe.
Oui, deux militaires dont l'un serait en poste au ministère de la Défense et l'autre affecté sur une base en France. Mais ce n'est que la partie visible d'un réseau très organisé selon une source proche de l'enquête, puisqu'en garde à vue depuis mardi se trouvent aussi d'anciens militaires, un emploi jeune de la police ou encore des personnes travaillant dans le domaine de la sécurité. Au total, 10 personnes dont deux membres présumés de l'extrême droite, dont l'un fiché par les services de renseignement. Tout ce petit groupe est soupçonné d'avoir acheté et remilitarisé des armes pour les revendre avec un système de distribution qui irrigue toute la France, à commencer par la région parisienne. Les enquêteurs en ont saisi des centaines et continuent à en faire le décompte précis, mais les premiers éléments laissent entrevoir un volume hors norme d'armes mises à disposition de toute nature et de toute catégorie, que ce soit des armes de poing, des fusils d'assaut, des munitions ou encore de la poudre.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et les sports, ça va nous faire du bien de parler un peu de sport et d'autres choses. Le coup d'envoi ce soir du mondial de handball qui se dispute en Égypte, tiens.
Et la France affronte ce soir la Norvège à partir de 20h30. Les Bleus qui traversent une période sportivement compliquée hein, et qui doivent en plus s'adapter à la situation sanitaire qui perturbe l'organisation de la compétition, Axel May.
Oui, de leur hôtel, les Bleus ont vu sur les pyramides et c'est à peu près tout ce qu'ils verront de l'Égypte. Depuis leur arrivée, mardi au Caire, ils sont confinés, vivent dans une bulle sanitaire. Il faut dire que deux équipes, la République tchèque et les États-Unis, ont déjà déclaré forfait trop de joueurs positifs au coronavirus. Les autorités locales espéraient autoriser une jauge réduite. Finalement, ce sera huis clos généralisé. À cette incertitude sanitaire s'ajoute l'incertitude sportive, car les Bleus sont en plein doute depuis leur élimination historique dès le premier tour du championnat d'Europe il y a un an. Et ils sont en plus privés sur blessure de leur star Nicolas Karabatic. Le nouveau sélectionneur, Guillaume Gilles, fait profil bas au moment d'entamer ce mondial égyptien.
Il est permis et il est autorisé de rêver. Et en même temps, le principe de réalité de nos deux dernières performances nous ramène au travail qu'il nous reste à accomplir avant d'être en mesure d'à nouveau briguer les premiers rôles.
Pour leurs deux seuls matchs de préparation, les Bleus ont enregistré une défaite et concédé un nul face à une formation serbe, même pas qualifiée pour le Mondial. Ce soir, en guise de hors-d'œuvre, ils vont affronter les Norvégiens, double vice-champion du monde, et peu d'observateurs donnent les Français gagnants.
Eh bien, on verra ça. Merci Axel May. Le coup d'envoi, c'est à 20h30.
Et puis Norvège-France, rendez-vous à 20h30 pour le coup d'envoi. Vous l'avez dit,
non ?
Pardon, j'ai un peu la tête en l'air. Vous m'excusez, Isabelle.
Je vous excuse tout à fait.
Merci Isabelle, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain à partir évidemment de 18h. Et ce sera vous d'ailleurs, comme chaque vendredi, qui sera aux manettes de ce 18-20. Un petit coup d'œil au temps avec Anissa. Pourquoi vous rigolez ? Parce que j'ai un temps de retard. 11 départements en vigilance orange, Anissa.
Oui, soyez prudents. Du Pas-de-Calais à l'Alsace, en passant par la Lorraine et jusqu'au territoire de Belfort, la neige est tombée aujourd'hui avec de forts cumuls. Hein, de nombreux centres-villes sont blancs. Eh bien, sachez que ça va continuer demain. Prudence, parce qu'en plus de cet épisode neigeux remarquable, le froid est de retour et le risque de verglas sera important d'ailleurs sur les nombreux départements du Nord-Est. Notez que des restrictions de circulation sont mises en place et que l'arrêt de la circulation des bus scolaires aussi est annoncé, donc renseignez-vous près de chez vous. Demain, dans le centre-est, nous aurons quelques flocons en pleine. Sur la moitié sud, le ciel est gris avec des averses. En Corse, les orages se développent. Au bord de la Méditerranée, nous aurons du vent fort, toujours la tramontane. Bon, le soleil sera quand même bien présent, mais le vent souffle et chasse les nuages. Et puis dans l'après-midi, c'est sur la moitié nord qu'il fera le plus beau. Au nord de la Loire, nous aurons une journée ensoleillée et lumineuse. Les températures, moins 4 à 8 degrés demain matin, moins 1 à 13 degrés demain après-midi. C'est au nord-est qui fera le plus froid.
Vous dites ça avec une petite voix, genre satisfait. C'est au nord-est qui fera le plus froid.
J'essaye de garder le sourire malgré tout.
Mais vous avez raison, essayons de garder le sourire. Merci Anissa.
Bonne soirée.
Europe 1. Écoutez le monde changer.